Chers amis des cellules, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en cette rentrée scolaire pour notre premier enseignement. Je vous propose que nous suivions un module de 3 séances pour étudier la lettre pastorale de notre archevêque Monseigneur Michel Aupetit. Rappelons tout d'abord ce qu'est une lettre pastorale. Une lettre pastorale, c'est un document de l'évêque où il présente son action, sa réflexion au peuple de Dieu, de Paris, ici en l'occurrence, pour que celui-ci se l'approprie. Qu'est-ce que ça veut dire se l'approprier ? Qu'il l'entende et le comprenne, comprenne les axes, là où il veut aller. Que le peuple de Dieu y réagisse aussi, c'est-à-dire qu'on lui demande d'exprimer sa parole, de faire les suggestions qu'il a envie de faire. Et puis troisièmement, qu'il le traduise en action, en le portant dans la prière. Les deux choses sont toujours présentes, la mise en action, mais aussi la prière qui permet de laisser la place à Dieu pour féconder ce que l'on veut faire. Commençons la lecture de cette lettre pastorale intitulée « La fraternité au service de la mission ». Je cite « Depuis 3 ans et demi que le Saint-Père m'a appelé à recevoir la charge du diocèse de Paris, bien des événements inattendus et désarmants se sont produits. En premier lieu, l'incendie de Notre-Dame. L'émotion considérable qu'il a suscitée en France et dans le monde a certes mis en lumière un fort attachement au patrimoine culturel et religieux, mais plus profondément, l'immense attente de nos contemporains relativement à l'Église du Christ. Si chaque détail lié à la reconstruction de l'édifice semble faire débat et suscite les passions, c'est que notre cathédrale représente bien autre chose. Elle est la mémoire religieuse de notre pays, mais elle est, peut-être plus encore, le signe de l'avenir missionnaire de notre Église dont nous avons pu découvrir les intenses blessures. Mais n'est-ce pas du côté transpercé du Christ que jaillissent le sang et l'eau ? Michel Aupetit revient sur des éléments qui ont marqué le début de sa charge comme archevêque de Paris, et il tâche d'y lire les signes des temps. Cela signifie qu'il ne se contente pas de faire mémoire d'événements, mais qu'il cherche à y trouver les indications que le Seigneur nous donne pour traverser cette période, pour être fécond en cette période. Il relève donc que, autour de l'incendie de Notre-Dame, on a vu se manifester une immense attente de nos contemporains relativement à l'Église du Christ. Le fait que les gens aient été touchés, même internationalement touchés, signifie que l'Église du Christ représentée par Notre-Dame a une importance pour eux, elle leur dit quelque chose. Le fait que chaque détail de la reconstruction de la cathédrale ouvre un débat passionné manifeste que notre Église a bien la place pour parler, a bien la place pour dire quelque chose, a bien la place pour exercer sa mission. Et ce, quand bien même sont apparues d'immenses blessures de notre Église. On peut penser en arrière-fond aux affaires d'abus sexuels, mais l'archevêque nous invite au courage en relevant que si notre Église est blessée, on se souviendra que c'est du côté transpercé du Christ qu'ont jailli le sang et l'eau. Si c'est du corps mort de Jésus que le sang et l'eau ont jailli, source de vie, alors notre Église blessée peut aussi bien être source de vie, qu'elle ne se décourage pas. Je reprends la lecture. L'année suivante, la pandémie mondiale de la COVID-19 nous a révélé la fragilité de notre société et les limites de la condition humaine. Elle a frappé une civilisation sûre d'elle-même, de la fulgurance des progrès techniques et de sa domination de la nature et des éléments qui la composent. L'individualisme exacerbé mis en place par cette illusoire autonomie nous avait fait oublier que la Terre est notre maison commune. Les gestes barrières et la distanciation nécessaires pour endiguer la propagation du virus nous ont fait ressentir à quel point nous étions interdépendants et fondamentalement des êtres de relation. Notre archevêque évoque le fait que la crise de la COVID-19 a été l'occasion de sortir d'une illusion, l'illusion que la technique protégeait notre société de sa propre fragilité et des propres limites de la condition humaine. L'homme, la société humaine, demeure fragile, ne maîtrise pas tout. Plus encore, les confinements, les gestes barrières ont bousculé l'individualisme exacerbé qui s'était développé. Privés de relations normales, nous nous sommes rappelés que nous étions interdépendants et fondamentalement des êtres de relation. Ayant évoqué ces deux éléments, nous pressentons que les thèmes de la lettre pastorale viennent de cette observation. D'une part, l'Église a la place pour la mission, c'est ce que les événements autour de Notre-Dame manifestent. D'autre part, il y a un enjeu vital de redécouvrir la fraternité, de vivre la fraternité. C'est ce que la Covid nous a fait sentir en bousculant l'individualisme dans lequel nous nous étions un peu enfermés. Je reprends la lecture. Tout ceci nous oblige à repenser notre relation au monde, à notre place dans la société et à l'immense trésor qui nous a été confié par le Christ, célébré dans les sacrements et dont nous sommes appelés à être témoins. L'amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne doit être connu de tous les hommes pour pouvoir construire cette civilisation de l'amour chère au pape Saint Jean-Paul II. Michel Aupetit tire une première conséquence de son analyse des signes des temps. Nous disposons d'un trésor qui est une responsabilité. Ce trésor, c'est la connaissance de l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne. Et ce trésor, nous sommes appelés à en être témoins pour les hommes, afin de pouvoir construire cette civilisation de l'amour. Non pas une civilisation de l'individualisme et de l'argent, mais une civilisation de l'amour. Pour arriver à cet objectif, cela nous oblige à repenser notre relation au monde, notre place dans la société. Michel Aupetit indique donc un travail de réflexion pour ressaisir cette place, cet engagement dans le monde, cette façon dont nous sommes connus, cette façon dont nous parlons, pour que le monde reçoive ce trésor que le Christ nous a confié. Telle est notre responsabilité. Je passe quelques lignes où Mgr Aupetit évoque les forces vives qui existent dans Paris, la vitalité de nos paroisses, mouvements et communautés avec leur charisme propre, la réalité d'un élan missionnaire qui existe déjà, et je reprends la lecture un peu plus loin. Les richesses humaines et religieuses invite à reconnaître comment la recherche de vérité, de bonté, et aujourd'hui plus particulièrement la recherche de beauté inscrite dans la nature et dans toutes les formes d'expression artistique, est une médiation fondamentale pour contempler le Dieu fait homme. Comme l'affirmait déjà Saint Paul VI lors de la clôture du Concile Vatican II, ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir. La beauté, comme la vérité, est ce qui apporte la joie au cœur des hommes. Elle est ce fruit précieux qui résiste à l'usure du temps, qui unit les générations et les fait communiquer dans l'admiration. Mgr Aupetit relève ici un élément qui va nous aider à repenser notre place dans la société et notre relation au monde. L'importance de la beauté et de la vérité comme ce qui apporte la joie au cœur des hommes. Un fruit précieux, justement, qui n'est pas effacé par l'usure du temps, qui est un élément de communion, qui unit les générations, et qui les fait communiquer, ces générations, dans l'admiration. Donc le mouvement de recherche de beauté que nous pouvons constater dans la société doit être saisi comme une médiation fondamentale pour contempler le Dieu fait homme. La quête de beauté dans les arts, dans l'observation de la nature, est une médiation, un chemin ouvert à la contemplation de Jésus, le Dieu fait homme. Michel Aupetit souligne ensuite que Paris, ayant une place toute particulière pour le foisonnement artistique, intellectuel et culturel, notre diocèse a une place particulière sur ces sujets et est appelé à être un lieu d'innovation dans ces domaines si importants pour l'évolution d'une civilisation. Il rappelle combien le Collège des Bernardins a été un lieu voulu pour être en dialogue avec le monde. Il éclaire ce qu'on entend par dialogue en citant le pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti, je cite, « Un esprit de vrai dialogue se nourrit de la capacité de comprendre le sens de ce que l'autre dit et fait, bien qu'on ne puisse pas l'assumer comme sa propre conviction. » Il devient ainsi possible d'être sincère, de ne pas dissimuler ce que nous croyons sans cesser de dialoguer, de chercher des points de contact et surtout de travailler et de lutter ensemble. Fin de la citation. Michel Aupetit précise, je le cite, il s'agit bien de dialoguer, de découvrir par le logos qui habite le cœur de l'homme le chemin de vérité et de vie. C'est cette capacité à saisir ce qu'il y a de vrai et de bon dans la parole de l'autre, sans gommer ses différences, sans ignorer ses erreurs, mais de saisir ce qu'il y a de vrai et de bon dans ce qu'il dit, parce que ce sera un indice sur le chemin de la vérité et de la vie. Cet état d'esprit, Benoît XVI l'avait relevé dans sa visite aux Bernardins en son temps, était déjà au cœur des moines qui l'habitaient. Ce potentiel de Paris étant relevé, Monseigneur Aupetit réfléchit à ce qui va permettre d'élaborer et de mettre en pratique les axes pour repenser, renouveler notre relation au monde. Je reprends la lecture. Tout ce potentiel doit donc nous pousser à rechercher la volonté du Seigneur pour notre temps. Comme le rappelle Benoît XVI, cette recherche se vit dans la communion. À quoi sommes-nous appelés ? Comment pouvons-nous faire cela dans la confiance, la paix et l'unité ? Le travail engagé selon un processus synodal doit permettre à chacun de participer concrètement à l'élaboration de la vision pastorale pour les années à venir. Il s'agit, selon le titre de cette démarche, « Mieux servir ensemble », de permettre à chacun d'y contribuer et de se l'approprier en répondant à l'appel du pape François sur la synodalité. Michel Aupetit évoque ici une façon d'avancer, une façon de réfléchir, qui est la synodalité. Synodalité, du grec synodos, le chemin avec, marcher ensemble en fait. Cela indique qu'il ne veut pas d'une démarche où il aurait seulement, on pourrait dire, lui, des bonnes idées que nous devrions appliquer. Il veut entendre ce que l'Esprit Saint inspire au peuple de Dieu. Cette façon de réfléchir, de travailler, la synodalité, implique un état d'esprit particulier. Je reprends la lecture. Celle-ci, la synodalité, n'est pas une action particulière pour un temps donné, mais un état d'esprit à mettre en œuvre pour que l'ensemble du peuple de Dieu puisse devenir ce qu'il est fondamentalement par le baptême, une église de disciples missionnaires. Monseigneur Aupetit souligne donc que cet état d'esprit de la mission n'est pas seulement l'apanage de certains, dont ce serait particulièrement la fibre ou la sensibilité, mais est bien la responsabilité de tous. Par le baptême, chacun est appelé à être un disciple missionnaire. La mission fait partie du baptême qui nous a été conféré. Il y a donc en vue une transformation, une conversion pour que le peuple de Dieu soit vraiment ce qu'il est appelé à être, ce qu'il est, un peuple, une église de disciples missionnaires. Pour faciliter l'apparition de cet état d'esprit, Monseigneur Aupetit renouvelle l'organisation de la gouvernance du diocèse. Je cite, « Pour cela, il nous a semblé important de repenser l'organisation et la gouvernance du diocèse, en écoutant les attentes de tous ceux qui font vivre le diocèse de Paris. Il est apparu clairement qu'il nous fallait être davantage présents sur le terrain pastoral et apostolique. Il détaille ensuite deux mesures pour y parvenir, une révision des vicariats, qui permettent de mieux connaître le peuple de Paris dans toute sa sociologie, et ce pour chacun des vicaires généraux qui aident l'archevêque, et deuxièmement, des visites pastorales pour mieux connaître ce qui se vit, ce qui se fait sur chacune des paroisses. L'objectif est une proximité plus grande avec les acteurs de terrain pour recueillir leurs premières réactions et pour mieux du coup travailler et réfléchir à la mise en œuvre des orientations qui ont émergé de ces observations que nous partage l'archevêque. Au terme de notre étude de ce jour, nous pouvons peut-être retenir particulièrement quatre points. Premier point, les signes des temps montrent que l'Église, même blessée, a bien une parole à apporter au monde. Deuxième point, nous sommes invités à rencontrer le monde sur la recherche de la beauté et de la vérité, à travers l'observation de la nature ou des arts, à dialoguer avec lui, car c'est une porte qui peut mener à la contemplation de Jésus, le Dieu fait homme. Troisième point, Paris a des ressources, des atouts particuliers pour réaliser cela, et donc une responsabilité particulière à se mettre à la tâche. Quatrième point, la démarche sera synodale. Pour repenser notre relation au monde et notre place dans la société, l'évêque souhaite un changement d'état d'esprit ou un affermissement de l'état d'esprit du peuple de Dieu qui comprend qu'il est un peuple de disciples missionnaires chargés de révéler l'amour de Dieu pour chaque homme et ainsi construire la civilisation de l'amour. Je vous souhaite de bons échanges.